va, ban, jija. À toi.
Alors, bonsoir à tout le monde, ciao à tous. Excusez-moi du retard. Et donc, après cette interruption dans nos cours qu'on a déjà commencé sur les halakhot de Shabbat, maintenant, Bezrat Hashem, on commence une nouvelle année. On commence une nouvelle année, pas parce que c'est l'année scolaire qui commence, mais parce qu'on est dans le Chodesh Elul. Chodesh Elul, c'est le début de l'année en fait. Malgré que l'année, d'après le calendrier, c'est Rosh Hashanah le début de l'année. Rosh, c'est la tête de l'année, c'est le Rosh Hashanah. Mais Elul, le Chodesh Elul dont on est, le Chodesh hébraïque, le mois hébraïque c'est Elul, c'est une préparation à Rosh Hashanah. Donc si c'est une préparation à Rosh Hashanah, donc en fait l'année commence en fait depuis Elul. Donc c'est un bon moment pour reprendre les Rosh Hashem, c'est Shiori, mais continuer toute la série des cours qu'on a déjà débuté les mois d'avant. Et donc Chodesh Elul, c'est un bon zman pour...
Ouais.
C'est un bon zman... Un bon moment pour commencer les mots de la halakha. Vous savez que Moshe Rabbeinu... Ah, il y a un problème.
Ah.
C'est bon ? Chodesh Elul, c'est que Yom Kippour, c'est le jour où on a reçu les deuxièmes luchot. Les luchot shniot, les deuxièmes tables de la loi. Les premières ont été cassées par Moshe Rabbeinu. On a reçu les deuxièmes tables. Quand est-ce qu'on a reçu ces deuxièmes tables? À Yom Kippour. Pardon? À Yom Kippour. Maintenant, 40 jours avant Yom Kippour, Moshe Rabbeinu est monté au Mont Sinaï pour recevoir ces Luchot Hashniot, pour recevoir ces deuxièmes tables. Donc les jours sont des jours de Ratson, c'est les jours où Kadosh Baruch Hu est très proche du Ham Israël. Donc ces jours-là, et c'est pour ça que c'est une préparation. Tout le mois d'Elul, en fait, c'est une seule entité, depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippourim. C'est des jours où Kadosh Baruch Hu est très proche de nous. Et en fait, nous a donné en cadeau ce mois-là pour qu'on se prépare à recevoir une année, mais Bezrat Hashem, pleine de Torah et pleine de bonnes choses. Donc c'est le moment propice pour bien reprendre et reprendre ces cours là-bas de le Limud Torah. Donc Kviyut de Limud Torah, qu'on a une fois par semaine, le Limud Torah, l'étude de la Torah en elle-même, et d'autant plus la halakhot de Shabbat, qui sont très importantes lorsque notre étude est guidée vers l'acte, le Maasé, c'est Chashuv Meot, et c'est une très bonne préparation pour les jours à venir, Rosh Hashanah et Yom Kippour. Donc je résume brièvement comment les shiurim vont continuer, Bezrat Hashem. Alors les cours qu'on a donnés, on a fait en fait une série de cours d'introduction aux halakhot de Shabbat, et on a passé quelques melachot. Alors bien sûr, à chaque fois que j'ai le mot melacha, d'accord, ça il y a des mots en hébreu que en général j'essaye toujours de traduire et d'expliquer et d'adapter, mais il y a des mots clés. Des mots clés qu'on ne va pas à chaque fois traduire et à chaque fois expliquer. Un des mots clés qui sont le vif du sujet des halakhot de Shabbat, c'est le mot melacha. Melacha. En hébreu, melacha, c'est la Torah. Lorsqu'elle veut s'exprimer, elle veut dire qu'une chose est interdite de faire le jour de Shabbat, elle emploie le pasouk lo ta'ase kol melacha. Donc on a développé, ne fais pas toute melacha. Melacha, en fait, c'est un acte important. Et cet acte-là, puisqu'il est important, donc ça s'appelle, Kadosh Baruch Hu ne veut pas qu'on fasse d'actes importants qui créent des actes de création le jour de Shabbat. Donc il y a une série, comme on a développé en long dans les cours de l'introduction, il y a une série de melachot, une série d'actes interdits, comme on a développé qu'il se situe dans le Mishkan, dans le tabernacle, dans la construction du Mishkan. Et tout ce que se situe dans la construction du Mishkan, c'est en fait tout ce qui est interdit de faire le jour du Shabbat. Donc, chaque titre des cours qu'on va étudier, c'est en fait, on étudie dans un premier temps, pour l'instant, on est en train d'étudier les melachot. Donc chaque, on a passé à peu près, je crois, 4 Mélachot. Avec le cours enregistré que j'ai envoyé à la fin de la semaine dernière. Voilà. Donc on a passé sur 4 Mélachot. À part tous les cours d'introduction qu'on a fait, on a vu 4 Mélachot. Enfin, je rappelle brièvement les Mélachot qu'on a déjà étudiés ensemble ici. Zoréa, Choresh d'abord. Zoréa, d'accord, Choresh, Zoréa, Kotser et Mehamer. Choresh, c'est labourer. Zoréa, c'est semer. Kotser, c'est cueillir. Et Mehamer, c'est mettre en tas. Donc ça, chaque Mélacha, d'abord bien sûr, c'est pas comme on l'a traduit, chaque Mélacha, on l'a défini. On dit ses critères. Et on essaye d'étudier toutes les sortes d'actions qui tournent autour de cette de chaque melacha, proprement dit. Et on essaye de voir plusieurs cas halakha le maaseh qui découlent de ces melachot. Donc ça c'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. On a étudié 4 melachot. Et là maintenant on va commencer à attaquer le vif du sujet des melachot de Shabbat. Et c'est des melachot qui vont prendre à peu près plusieurs cours sur une mélacha. Ce sont des mélachotes qui sont très centrales et ils sont assez complexes. Il y a pas mal de détails et très très lemaasé, très pratiques. Donc on va les étudier bien, Bifnei Asmo. Maintenant on va passer à la nouvelle mélacha, la cinquième mélacha des 39. C'est la mélacha qui s'appelle Melechet Dash. D'accord ? Alors, avant de commencer directement le cours, il y a deux choses qu'il faudrait préciser avant de commencer le cours. Première chose, c'est qu'il faut, je parle de manière à un statut dans le cours, c'est qu'il faut être régulier. C'est-à-dire qu'il faut être chaque semaine. Je parle en général, je ne parle pas des cas qui sont extrêmes, des cas de force majeure. En général, il faut suivre le cours de manière régulière. Pourquoi ? Parce que si jamais, par exemple, la mélacha qu'on va faire, elle va durer peut-être, la prochaine mélacha va durer peut-être 3, 4 shiurim, peut-être même plus. Si jamais, et chaque cours, c'est une construction, on avance, donc c'est des données. Le cours d'après, ça va être encore la suite. Si on rate, on risque après de mal comprendre. Et donc j'essaye à chaque cours de résumer à peu près le cours d'avant, mais c'est très différent lorsqu'on résume un cours ou lorsqu'on le développe comme il faut dans chaque cours. Donc ça, c'est très important là. Ikviyut, c'est-à-dire d'être régulier dans les cours. Ça, c'est la chose. Deuxième chose, et une des choses, une des raisons qu'on est en train de faire un cours par Skype, ça j'ai déjà dit plusieurs fois dans les cours d'avant, c'est qu'il faut une participation dans les cours. Ça veut dire que si j'enseigne le cours et que j'ai pas de participation, donc c'est plus facile pour moi d'enregistrer ça en audio. Si on a un Skype, il faut qu'il y ait un contact entre moi et vous qui participez. Il faut un contact. Alors, qu'est-ce que j'appelle contact ? Première chose, il faut que, par exemple, si jamais j'explique quelque chose. Alors, d'abord, techniquement, je sais que je n'ai pas un français qui est très très élaboré, mais j'ai des mots, des fois, d'hébreu qui viennent au milieu. Donc, si j'ai un mot d'hébreu, si je dis un mot d'hébreu, vous ne comprenez pas, il faut tout de suite m'arrêter, il faut dire que c'est en train de dire. Bon, je ne comprends rien. Donc ça, c'est une première participation. Deuxième chose, même si j'explique en bon français, des fois, le contenu de ce que je dis, il est difficile à comprendre. C'est-à-dire que plus on va avancer dans les mélachot, plus on va arriver à des notions qui sont assez subtiles, qui sont... Je vais essayer de faire le maximum pour bien expliquer, mais les notions qui sont fines, les notions qui sont complexes. Donc, il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas se gêner, on est là pour ça. Il faut m'arrêter, il faut dire, reprendre. Ou bien, est-ce que tu peux expliquer ça d'une autre meilleure manière? Donc, il faut déjà une participation. Participation de base, de compréhension. Une autre chose de participation, c'est les questions. Alors, les questions, il y a plusieurs sortes de questions. Des questions qui sont directement liées avec ce que je dis. Ça peut être des questions de pratique, ça peut être des questions qui tournent autour du sujet. Ça aussi, c'est très important. Il y a plusieurs utilités à ça. Ça peut enrichir le cours, ou bien, s'il y a quelqu'un qui a mal compris, il peut profiter de cette situation. Donc ça, c'est très important. Il faut, comme j'ai dit au début, d'abord, il faut être régulier. Deuxième chose, il faut participer. D'accord ? La participation, elle donne la structure du cours. En fait, le cours, il n'est pas seulement fait de moi, c'est surtout Béicard et de vous. votre participation, ça rajoute, ça peut, on peut expliquer, je peux expliquer ça d'une différente manière. Donc il faut qu'il y ait un contact et une participation biyahad. Ça, Bezrat Hashem, si ces deux choses-là sont remplies, on pourra avancer et doucement, doucement, on en a la fête de Shabbat et comprendre ça de manière beaucoup plus élaborée, beaucoup plus claire. Voilà, ça c'est en introduction. Maintenant, Bezrat Hashem, on va commencer les halakhot.
Juste une petite question. Voilà, je j'intègre les cours désormais.
Oui.
En bas de page, vous pouvez poser des questions et moi je les transmettrai à Mordechai. Si jamais dans la semaine il y a une question qui vous vient, ne vous gênez pas, posez-la directement sur le site et moi je les transmettrai.
D'accord, encore mieux.
D'accord.
Bon. Okay. Alors, Bezrat Hashem, on continue. Melechet Dash. Donc, comme j'ai dit, on a vu quatre Melachot. Là, maintenant, on va commencer la Melacha, la cinquième Melacha, qui s'appelle la Melacha de Dash. Dash, c'est pas Da'ash, c'est Dash. Dalet Shin. Dalet Shin. Qu'est-ce que c'est Dash? Si je traduis, le mot Dash, c'est battre le blé. D'accord? Alors pourquoi je parle de blé d'abord? Pourquoi je parle de blé? Ça on l'a dit dans les cours d'introduction, ça c'est bien, il faut bien se mettre dans la tête. De quel blé on parle? Comme j'ai dit tout à l'heure, toutes les actions qui sont interdites de faire le jour de Shabbat, on les a apprises du Mishkan. Ce sont les actions de base pour la construction du Mishkan. Donc par exemple, on a vu labourer, semer, récolter, semer, cueillir et mettre en tas. Alors au Mishkan, où c'est qu'on a tout ça? On ne fabriquait pas du pain hein, dans la construction du Mishkan. Seulement, au Mishkan, au tabernacle, on...
On ne présentait pas les pains.
Pardon?
On ne présentait pas les pains.
Alors, il y a fait ça. Est-ce que vous avez écouté les cours de l'introduction? C'est qui pose la question là?
C'est Rose. Est-ce qu'on ne présentait pas les pains au Mishkan?
Alors, si vous vous rappelez dans les cours, je ne sais pas si vous étiez là dans les cours d'introduction... On a dit, voilà, je vous conseille vivement d'écouter. Écouter. C'est même là, les mélachot qu'on a étudiés, la première et la deuxième, celle-là, c'est pas important pour l'instant, mais l'introduction, c'est important. Alors, je dis brièvement, les mélachot qu'on est en train de parler du Mishkan, on parle de la construction du Mishkan.
Ah oui.
Construction. Parce qu'on est en train de parler d'actes qui sont important. Donc, on a expliqué ça en détail que toute la construction du Mishkan, selon toutes ces étapes, ça forme en fait toutes les actions qui peuvent être importantes dans le monde. Donc, on parle de la construction. C'est vrai qu'il y avait du pain. Mais le pain, c'est une fois que le tabernacle est déjà édifié, c'est le travail qu'on faisait rien à voir avec la construction. D'accord?
D'accord.
Donc, on revient. Donc, maintenant, on a dit par exemple, alors, qu'est-ce qu'on avait besoin de semer, qu'est-ce qu'on avait besoin de cueillir pour le Mishkan? Alors ça, on a dit, Mishkan, une des choses qu'on avait besoin là-bas, c'est de prendre les tentures, c'est-à-dire les pots, et de les colorer. Maintenant, il n'y a pas de peinture dans le désert. Donc comment on colore ça? Eh bien, on plante des graines de couleur. On sème, on laboure, on sème, on cueille, on met en tas. Donc on fait plusieurs étapes dans les graines de couleur pour après avoir une graine, et pour après la moudre, et pour après la cuire, donc toutes ces étapes-là pour arriver à cuire d'un guide ces graines de couleur et aller fabriquer de la couleur pour pouvoir après tendre. Il y avait là-bas des tentures en bleu, des tentures en rouge, il y avait toutes sortes de couleurs dans le Mishkan, dans le tabernacle. Donc on avait besoin de cette couleur pour la construction du Mishkan. Maintenant, le Tana, c'est-à-dire l'auteur de la Mishnah dans Shabbat, pour plus simple, pour nous simplifier les choses, il nous a donné un moyen mémotechnique pour retenir toutes les étapes des Melachot interdits le jour du Shabbat. Qu'est-ce qu'il a fait comme exemple? Je ne vais pas parler des grains de couleur, c'est plus compliqué. Il nous a parlé de la fabrication du pain. Il faut bien comprendre. Quand je parle de fabrication de pain, c'est pas comme on vient de dire tout à l'heure que c'est pas la fabrication du Mishkan. Mais puisque les fabrications du pain, à toutes ces étapes, elles ressemblent aux étapes de la graine de couleur qu'on avait besoin d'utiliser pour la construction du Mishkan, donc c'est plus facile à retenir. Lorsqu'on voit le pain, comment on le fabrique, toutes les étapes, elles sont plus faciles à retenir. Donc c'est pour ça que tout ce qu'on est en train d'employer dans toutes les melachot qu'on étudie au fur et à mesure, on va orienter ça vers le pain. Ça ne veut pas dire qu'il y avait ça dans le Mishkan. Mais pour nous, c'est plus facile de retenir. Si par exemple, je dis comment on fait du pain, eh bien, on laboure la terre, après on met des grains de blé, et après ça pousse, et après je cueille les grains de blé, et après je bats le blé, et après le blé, il est avec ses écorces, j'ai besoin de séparer, de trier, et après j'ai besoin de prendre les grains et de le moudre. Une fois que j'ai mou, je pétris, et une fois que je pétris, je cuis. Donc tout ça, ce sont toutes les étapes. Tout ce que je viens de citer maintenant, c'est toute la liste de mélachot qu'on va étudier. Pour l'instant, on a vu labourer, on a vu semer, on a vu cueillir, on a vu mettre en tas, et là on commence au dash, on a l'étape de dash. Dash, c'est-à-dire battre le blé. Battre le blé, c'est une étape chashuva très importante dans la fabrication du pain. Donc c'est plus facile à retenir. Mais au Mishkan, on faisait pas ça pour faire du pain, on faisait ça pour faire des graines de couleur. Donc pareil, on avait besoin de semer, de cueillir, de mettre en tas, toutes ces mêmes étapes du pain. D'accord? Ça, c'est vous bien retenir ça. Et donc, à chaque fois qu'on va étudier une nouvelle mélacha, c'est en fait une nouvelle étape dans la fabrication du pain. Ça va pas faire 39. Après, on va passer à d'autres sujets. D'accord? On va voir. C'est pas toutes les 39 mélachot qui sont le pain. C'est le début, au moins. Les premières mélachot, c'est la fabrication du pain. Mais c'est que un moyen mémotechnique. D'accord? Donc, Melechet Dash. Melechet Dash, c'est une des Melachot. D'accord? C'est la cinquième Melacha, c'est battre le blé. Alors, vous savez, comme on a fait dans tous les cours d'avant, toujours on définit la Melacha. C'est-à-dire, on ne traduit pas seulement une Melacha, on définit quelle est l'action. C'est-à-dire, on prend cette action-là, qui est en fait une étape, une des Melachot, et on va la définir. Une fois qu'on aura défini, vous allez voir qu'il va y avoir plein de cas, très différents l'un de l'autre, mais qui vont avoir un point commun. Et donc, à chaque fois que je vais avoir affaire à une action de cette sorte, je rentre dans la melacha de Dash. D'accord? Je rentre dans cette melacha. À chaque fois que je veux faire une action qui va rentrer dans cette définition. Alors, venons définir cette melacha. Alors, c'est une définition un peu complexe, je sais vous la dire bien. Définition de Melechad Dash, c'est lorsque j'ai deux sortes différentes, d'accord, qui sont incorporées l'un dans l'autre. Deux sortes différentes qui sont incorporées l'un dans l'autre. Et l'action, elle est, ça c'est de quoi on parle, d'accord, deux sortes différentes qui sont incorporées l'un dans l'autre. L'action, elle est extraire l'un de l'autre. Comment ? Avec une action forte, c'est-à-dire ou bien en pressant, ou bien en cassant. D'accord ? Je reprends la définition. Deux sortes différentes l'une de l'autre, deux espèces différentes l'une de l'autre, qui sont incorporées l'un dans l'autre, et l'action que je fais, qui est définition de la Melechad Dash, c'est extraire l'un de l'autre, en frappant, ou bien en pressant, ou bien en faisant toute action de force, pour extraire l'un de l'autre. Ça, c'est la définition.
Ça alors, veut dire quand on extrait, on bat le blé aussi en même temps.
Alors, maintenant, on va par exemple battre le blé. Battre le blé, d'accord, battre le blé, qu'on est en train de dire Melechad Dash, c'est la traduction. À chaque fois qu'on dit la Melacha et qu'on a un titre, c'est la Melacha qui s'appelle Av. Rappelez-vous dans le cours d'introduction. Il y a Av et il y a Tolda. Av, c'est l'action père, c'est-à-dire c'est l'action qu'on faisait à la construction du Mishkan. Maintenant, cette action, c'est pas seulement l'action qui est la Melacha. Dès que ça rentre dans la définition, vous allez voir par la suite, c'est par exemple Tolda. Tolda, c'est dérivé. Quand je dis dérivé, point de vue Issur Torah, ça a le même statut, parce que je réponds à la définition de Melechad Dash. Donc venez d'abord, on analyse le Av, et on va voir comment ça répond à la définition qu'on vient de voir. Lorsque j'ai labouré et que j'ai semé et que maintenant j'ai cueilli et que j'ai mis en tas, donc j'ai en tas maintenant plusieurs, j'ai pas des grains de blé, j'ai des épis de blé. Où est-ce qu'ils sont les grains de blé? Le grain lui-même, c'est-à-dire si je regarde vraiment que le grain qui est mangeable.
Il est complètement,
on ne le voit pas, il est dans son écorce. Donc maintenant, lorsque maintenant, aujourd'hui dans le temps moderne, d'accord, on ne va pas parler de l'époque, mais on a par exemple une machine qui s'appelle la moissonneuse-batteuse. Donc moissonneuse, ça rentre, c'est aussi par exemple, j'ai une machine qui moissonne. Là, ça va rentrer dans quel melacha? C'est-à-dire, si je regarde l'action de moissonner, c'est la troisième melacha, c'est cueillir. Donc c'est aujourd'hui, c'est comme ça qu'on cueille le blé. On a une moissonneuse et ça passe sur tous les épis de blé, ça les cueille. Ça veut dire que, rappelez-vous, la définition de Meleret Kotser qui est cueillir, c'est détacher un végétal de sa source de vie. Donc l'épi, il était attaché à la terre. Dès que je l'ai coupé avec la moissonneuse, ça a détaché de la terre, ça ne vit plus. Donc c'est une action qui s'appelle Kotser. Mais la batteuse qui vient après, qu'est-ce que ça fait? Ça prend les, une fois que j'ai rassemblé, je passe dessus et ça doit faire, ça doit taper très fort sur le blé. Il y a tout un système et de force, ça va faire, ça va extraire le grain de blé des épis, des écorces, de toutes les saletés qu'il y a là-bas autour du grain de blé. Et ça va rester comme ça mélangé ensemble. Et je vais avoir un tas de d'écorces, d'épis, de toutes sortes de choses, et avec les grains de blé qui sont sortis. Qu'est-ce qui a fait sortir? L'action de battre. Alors à l'époque, comment on faisait ça? On faisait ça avec des chameaux, avec des animaux, et on faisait passer des bouts de bois ou des planches, je sais comment ça, et on faisait taper comme ça fort, et toutes sortes de manières. En tout cas, le but, c'est de frapper. Donc maintenant, regardez comment la définition elle est accomplie. On a deux sortes différentes. Chaque chose, c'est très important d'avoir pour la suite, que chaque détail que j'ai dit. Deux sortes différentes. Quelles sont les deux sortes différentes qu'on a ici? On a le blé, qui est mangeable, et on a l'écorce, l'épi, les saletés. C'est deux choses différentes. À l'état initial, ils sont incorporés l'un dans l'autre. Ça veut dire que le grain de blé, il est complètement enveloppé par son écorce. Pour pouvoir sortir le grain de blé de son écorce, il faut faire une action forte. Il faut presser, il faut battre, il faut frapper. Ça ne sort pas de manière simple. C'est une étape. Donc pendant cette étape-là, c'est une étape importante parce qu'on doit faire sortir le grain de blé de son écorce. Et après, on a des grains de blé mélangés avec. On arrive à la mélacha, comme on a dit bien par la suite. C'est la mélacha qui vient juste après. Il va falloir vanner tout ça et trier et séparer l'écorce du grain de blé. Eh bien là, il faut bien faire attention, on va répéter. Quand je dis séparer l'écorce du grain de blé, c'est pas extraire le grain de blé de l'écorce. Extraire le grain de blé de l'écorce, c'est une étape. Et séparer l'écorce du blé une fois que ça a déjà été extrait, c'est une nouvelle étape. Et chaque étape, elle est importante. Chaque étape, c'est une action qui est importante. Après, une fois qu'on a fait la moissonneuse batteuse est passée, alors je ne sais pas comment ça se passe, mais à l'époque, on prenait une grande pelle et on jetait ça à l'air. Et toute l'écorce qui est très légère, elle s'envole. Et le grain de blé qui est lourd, il tombe. Donc en faisant cette action-là, on sépare l'écorce du grain de blé. Ça n'a rien à voir avec l'étape qu'on a fait avant, qu'on a frappé sur le blé, sur les épis de blé. Donc c'est ça qu'il faut bien définir. L'action de dash, d'accord, de battre, c'est une action importante dans l'état de la fabrication du pain et qu'il y avait aussi au Mishkan dans les graines de couleur. Donc c'est une action qui est importante qui s'appelle Melechet Dash, et ça c'est la définition qu'on vient de voir. Ça c'est le Av. Le Av, c'est-à-dire l'action père, c'est la traduction qu'on dit Dash, battre. Quand on dit battre, c'est battre le blé, battre des graines. Claire ? Maintenant on continue. Lorsque je dis Tolda, d'accord, Tolda, c'est une dérivée de cette action. Et puisque maintenant on est en train d'étudier la Melecha de Dash, on n'est pas intéressé à. On n'est pas agriculteur, donc on ne va pas en train de s'intéresser au blé et au grain de blé. On veut savoir, on veut essayer de trouver dans la vie qui nous entoure, qu'on a à faire tous les Shabbats, à des actions qui sont très loin apparemment de battre le blé, mais qui répondent exactement à la définition. Et donc, c'est un interdit de la Torah. Donc faire une action qui va répondre à cette définition, ça va être transgresser un interdit de la Torah. Donc je vais vous dire maintenant plusieurs toldot, mais en fait ça va être le sujet de plusieurs cours. Chaque tolda, on va la développer, on va essayer de voir l'expliquer comme il faut et de voir tous ses dérivés et tout ce qui l'entoure. Un des premiers exemples. Lorsque j'ai un raisin, je dis exactement un raisin, vous allez comprendre par la suite dans les cours pourquoi j'ai tout seulement d'Afka et spécialement le raisin. Je prends un grain de raisin et je prends un verre et je presse le raisin pour faire du jus de raisin. Donc je presse au-dessus du verre, d'accord, et je reçois dans mon verre du jus de raisin. Qu'est-ce que je suis en train de faire? De presser du raisin. Alors, d'après vous, est-ce que presser cette action que je suis en train de faire, presser le raisin, est-ce que ça répond à la définition qu'on vient de voir?
Oui, tout à fait.
Pourquoi?
Parce que vous pressez.
On presse.
Donc, c'est une action d'âge. C'est comme. C'est une mélange pas.
Alors, là, vous m'avez dit juste.
On détache, donc c'est pour obtenir du jus.
Alors voilà, donc là on m'a défini qu'une partie de la définition c'est l'action de force. Tout à l'heure c'était battre, là c'est presser. Maintenant il y a encore la définition, elle était composée de plusieurs détails. Quelles sont les deux sortes différentes qu'on a ici? Tout à l'heure on avait le blé et l'écorce. Là qu'est-ce qu'on a dans notre cas, nous?
Là c'est pour le jus, non?
Il a fait.
Pour l'extrait du jus.
Il a fait, très bien. On a le jus et on a le fruit. Le jus c'est pas le fruit. Donc le jus il est incorporé dans le fruit. Lorsqu'on voit un raisin, on voit pas le jus. Lorsqu'on voit un épi de blé, on voit pas le grain de blé. Donc il est complètement incorporé à l'intérieur. Et on le voit pas. Et c'est différent. C'est-à-dire le fruit qui est raisin et le jus de fruit sont deux choses différentes. Ça c'est du ochel, c'est un aliment, et ça c'est un mashke, c'est un jus. Donc c'est deux choses différentes. Et on extrait avec une action de force l'un de l'autre. Donc, presser un raisin, faire du jus de raisin, c'est un interdit de la Torah. Ça répond à cette définition. Et c'est une tolda, c'est-à-dire une dérivée de la melacha de Dash. D'accord? Encore un autre exemple. Traire une vache. Lorsque je traie une vache, d'accord? Un fermier, on va dire, il traite. Il part à la traite, il traite le lait de la vache. Pareil ici. Ça répond aux mêmes définitions. On a la vache, on a le lait. La vache, c'est un aliment, c'est une bête, c'est quelque chose qui est de la viande en fait. La viande, que ce soit vivante ou pas vivante, mais en tout cas, ça n'a rien à voir avec le lait. Et dans le puits de la vache, on a du lait. Donc on a un mashke, on a une boisson qui s'appelle le lait. Qu'est-ce qu'on fait? On traite. Donc traire, c'est aussi une action de force. Comme battre ou comme presser. Traire. Lorsque je traite, j'obtiens du lait. Le lait qui auparavant était incorporé dans le puits de la vache. Donc traire une vache le jour du Shabbat, ça rentre aussi dans cette définition. C'est aussi un interdit de la Torah. On ne peut pas traire une vache le jour du Shabbat. Donc, bien sûr, tout ce que je vous dis là, c'est juste des titres de cours qui vont venir par la suite. Parce que, qu'est-ce qu'il va faire le fermier alors qu'il y a des vaches? Il est obligé de les traire tous les jours. Donc, il faut bien trouver une solution. Mais, pour l'instant, on est en train de définir. L'action elle-même, c'est clair que ça répond exactement à cette définition de Melechet Dash. Traire une vache. Pareil, une femme qui allaite. Donc une femme qui allait, si jamais elle extrait dans un biberon, c'est exactement pareil. Le lait est incorporé chez la mère. En extrayant le lait, on fait sortir, on obtient quelque chose qui est très différent de la mère, qui a été incorporée dans la mère. Donc, ça rentre aussi exactement dans la même définition. Ça aussi, on va développer comment elle fait une mère pour allaiter son enfant le jour du Shabbat. D'accord? Donc ça, comment on peut allaiter un jour? C'est évident qu'on en allaite même le jour du Shabbat. Mais si je dis que allaiter, ça rentre dans le même principe, donc il faut comprendre pourquoi on peut allaiter le jour du Shabbat. Ça, on verra dans ce cours quand on parlera de ce sujet. Ensuite, encore un autre exemple. Essorer. Exemple. On va prendre un exemple. On lave le parterre avec une serpillière. Donc ma serpillière est imbibée d'eau. D'accord? Imbibée d'eau. Je prends une action, j'essore cet habit. D'accord? J'essore cette serpillière. Qu'est-ce que je fais en essorant? Si j'analyse l'action que je suis en train de faire lorsque j'essore. Le jus, c'est-à-dire le liquide, on va dire, d'accord? Peu importe comment il est incorporé dans l'habit. Lorsque je vais essorer cet habit, donc on est d'accord que l'habit c'est une chose, le liquide qui est à l'intérieur c'est une deuxième chose, s'incorporer l'un dans l'autre, et en faisant une action de force qui est ici essorée, j'extrais le jus ou le liquide qui est dans la bille. Donc l'action que je suis en train de faire, ça répond encore une fois exactement à la définition de la melacha de dash. Donc ça rentre aussi dans cette définition et c'est un interdit de dash. Alors bien sûr, il y a plein de détails, plein de conditions, ça c'est, comme je vous dis, juste les titres. Juste pour vous montrer combien d'actions qui n'ont rien à voir avec battre le blé. Donc lorsque je dis melacha de dash, c'est pas seulement battre le blé. C'est la définition qu'on a dit, extraire de sortes différentes, incorporer l'un de l'autre en faisant une action de force. Donc c'est presser, comme on a vu, du raisin, allaiter, et traire une vache, et essorer les habits. D'accord ? Tout ça,
les
ça.
Aussi.
Pardon ?
Les œufs. Enlever le jaune et le blanc.
Le jaune et le blanc d'un œuf ? Alors, bon exemple. Qu'est-ce que vous pensez? C'est-à-dire quoi? Je séparais le jaune et le blanc d'un œuf? C'est ça que vous demandez?
Oui, pour faire une omelette.
D'accord. Alors une omelette, je crois pas qu'on peut faire une omelette Shabbat, c'est un peu difficile.
Non.
Mais gober un œuf, on va dire quelqu'un qui veut gober que le jaune d'un œuf, ou il veut manger ça, le mélanger dans un autre aliment. Alors, à vous de réfléchir, ça c'est un bon exemple. Est-ce que séparer le jaune d'œuf, est-ce que ça rentre dans la définition de melechet dash, comme vous demandez? Qui a demandé la question?
C'est moi, Laura.
Alors, est-ce que ça rentre dans la définition de Melechet Dash? Réfléchissez.
Non, c'est pas une action de battre.
Bon, déjà, d'accord, c'est pas une action. Mais est-ce que le jaune est incorporé dans le blanc? Non? Est-ce que le jaune et le blanc, ça s'appelle deux sortes différentes? Lorsque je dis deux sortes différentes, faut bien comprendre, c'est pas jaune et blanc. Le sort différent, c'est deux espèces différentes. Regardez dans tous les exemples qu'on a cités. Faut bien, c'est-à-dire quand
non.
Les...
non, ils sont liquides.
Les deux, c'est la même espèce, c'est le même mine. C'est l'œuf. Seulement dans l'œuf, il y a le blanc d'œuf, il y a le jaune d'œuf. Tous les exemples qu'on a cités, le blé par exemple, il y a l'écorce. L'écorce, ça se mange pas. Le blé, ça se mange. Dans le cas du raisin, le fruit, ça c'est un aliment. Le jus, c'est du jus. C'est-à-dire, un c'est un jus, l'autre c'est un aliment. C'est-à-dire, un c'est ochel en hébreu ça s'appelle, et l'autre c'est mashke. C'est très très différent dans les critères hilchatiques. Le ochel et le mashke. Dans le essorer les habits, il y a le jus, il y a le liquide et il y a l'habit. C'est-à-dire que c'est deux sortes différentes qui sont incorporées l'un dans l'autre et que je fais une action forte. Donc, séparer le jaune et le blanc, d'accord ? Séparer le jaune et le blanc, ni c'est incorporé l'un dans l'autre, ni je fais une action qui est forte, et ni c'est deux sortes complètement différentes. Donc, ça ne rentre pas dans cette mélacha. Dans quelle mélacha, par contre, ça rentre ? Dans la mélacha d'après. La mélacha qui va suivre, c'est mélachet borer, séparer, trier. Là, oui, ça rentre dans ce sujet. Donc, il faut voir ce que c'est permis, ce que ça assure. Il y a beaucoup de conditions. Mais ça rentre dans cette définition. Comme je vous ai dit tout à l'heure, par exemple, on a l'étape où on bat le blé, on fait sortir la graine de l'écorce, et il y a l'étape où on sépare l'écorce du blé. D'accord ? Donc, dans le jaune d'œuf et le blanc d'œuf, c'est séparé plutôt. C'est pas frappé. Ça répond plus à la définition de séparer plutôt que la définition d'extraire. C'est assez fin comme définition, mais c'est toute la définition qu'il y a entre cette, c'est toute la différence qu'il y a entre cette mélacha là et la mélacha d'après. Un, c'est extraire une chose incorporée dans l'autre, et l'autre, c'est séparer. D'accord ? Ça, on va revenir plusieurs fois sur ça. C'est élémentaire, cette définition. C'est ce qui sépare les deux mélachot. Ça ressemble un peu, mais c'est différent, c'est très différent. Voilà. Donc ça, on a traité un peu toutes les différentes toldot qu'on a vues, toutes les actions qui répondent à cette définition qu'on a vue de Melechet Dash. Maintenant, on va élargir un peu cette définition pour mieux comprendre encore. On va donner des exemples aussi. Si par exemple, j'ai Alors, tout à l'heure, on a dit qu'il faut que ce soit deux sortes différentes. Si je vous donne un exemple, par exemple, j'ai un haricot vert. D'accord ? Alors, l'haricot vert, comment il est fait ? Il est fait, il y a le légume lui-même qui est haricot, qui est long. Et à l'intérieur, il y a comme des petits pois, comme ça, des graines. D'accord ? Si maintenant, les graines, je ne les vois pas. Ils sont, quand j'ai l'haricot qui est en entier, je ne vois pas les graines qui sont à l'intérieur. Si maintenant, je presse l'haricot pour pouvoir faire sortir les graines qui sont à l'intérieur. Donc, je fais une action de force. Alors, est-ce que, dans ce cas-là, est-ce que cette action-là répond à la melacha de Dash, à la définition de Dash? C'est-à-dire, mon but, c'est de faire sortir les petits pois là-bas qui sont à l'intérieur de l'haricot. Est-ce que j'ai le droit de faire ça le jour du Shabbat?
Oui, tout à fait.
Pourquoi?
Puisque, donc, il y a deux sortes différentes, donc, qui sont incorporées, l'un dans l'autre. Donc, il y a donc...
Il y a les pois, on va appeler ça les pois, je ne sais pas si ça s'appelle des pois, mais on va comprendre, c'est des pois qui sont dans l'haricot. Moi, qu'est-ce que je fais? Je presse sur l'haricot pour sortir le pois.
Donc, il y a les pois qui sortent.
D'accord, ça sort. Est-ce que je réponds à la définition de Melchet Dash?
Puisqu'il y a les pois qui sortent, donc je pense que oui.
Donc, c'est interdit?
Oui.
Alors,
enfin, je suppose.
Alors, là, ma réponse est non. Pourquoi? Il manque une définition. C'est pour ça que je dis que la définition, il manque quelque chose, un élément dans la définition qui ne répond pas. Dès qu'il manque un élément, c'est plus la définition de la melacha, donc on n'est plus dans la melacha. Qu'est-ce qui manque ici? Incorporer, c'est incorporer. Presser, je presse. Qu'est-ce qui manque ici? Qu'est-ce qui est différent?
Extraire l'un de l'autre.
J'extrais l'un de l'autre. Seulement ici, les deux... Les deux choses, ils sont mangeables. Les deux, c'est du orel. L'haricot, ça se mange. Le pois, ça se mange. Tous, rappelez-vous, la définition de base de Melechet Dash, c'est deux choses différentes l'une de l'autre. Lorsque j'ai le blé et j'ai l'écorce, elle m'empêche d'arriver au blé. L'écorce, c'est quelque chose qui est très, très opposé et différent du blé. Lorsque j'ai le liquide qui est dans mon habit et que je sors mon habit, et je veux pas, moi je veux une serpillière qui est essorée. Donc les deux choses, ils sont contradictoires, ils sont opposés. Seulement ils sont un dans l'autre. C'est pour ça que je presse, c'est pour ça que j'extrais, c'est pour ça que je veux extraire une vache qui a du lait à l'intérieur. Je veux traire parce que je veux arriver au lait. Et quand c'est au lait, tant que c'est dans la vache, j'arrive pas au lait. Donc ça empêche, c'est très différent. Le pis de la vache avec le lait, c'est deux choses qui sont complètement contradictoires. Ça, c'est la définition de Melechet Dash. D'accord ? Dans le cas que j'ai à moi, tout est mangeable ici. Donc si tout est mangeable, je suis en train de m'occuper d'un aliment qui s'appelle l'haricot vert. Donc ça n'a rien à voir avec Melechet Dash. D'accord ? Malgré que ça répond à extraire et que c'est incorporé, d'accord ? Mais il faut que ça réponde à toutes les définitions. D'accord ? Ça c'est un exemple pour mieux élargir la définition. Deuxième chose, deuxième nekuda, deuxième point qu'il faut voir dans la définition... Il faut que ça s'appelle en hébreu Gidoulé Karka. Gidoulé Karka. Traduction. Gidoul, c'est Godel, ça pousse. Et Karka, c'est du sol. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit quelque chose de naturel. Quelque chose qui pousse de manière naturelle. Pourquoi? Parce qu'on se réfère toujours à ce qu'il y avait au Mishkan. Donc, on prend exactement toutes les melachot qu'on est en train de voir et que ça rentre dans l'interdit, à part la définition, on s'est plus attardé sur la définition de l'acte, mais il faut aussi que ça ressemble au maximum à la melacha qu'il y avait à la fabrication du Mishkan. Dès qu'on rentre dans une autre classification, même si ça répond à toutes les définitions, mais ça ne ressemble pas du tout, c'est très loin. Ça ne rentre pas dans la melacha. Ça, on va voir à chaque melacha qu'on va avoir définir. Je vous donne un exemple, par exemple. Si j'ai une éponge synthétique, d'accord, une éponge qui n'est pas faite à base de choses naturelles, et que cette éponge, elle est imbibée d'eau ou imbibée de toutes sortes de liquides. Alors, presser cette éponge-là, d'accord, ça ne représente pas un interdit de la Torah. Pourquoi? Alors on a tout ici, on a toute la définition. On a le liquide qui est très différent de l'éponge, qui est incorporé dans l'éponge et que je presse. Seulement l'éponge, elle n'est pas naturelle. L'éponge, c'est quelque chose, je parle d'une éponge qui est synthétique. Tout à l'heure, quand je parlais de l'habit, L'habit, c'est fait à base de... On parle d'un habit en général, c'est fait à base de laine, à base de lin, à base de toutes choses naturelles. Dès que... Donc ça ressemble au Mishkan, où c'était fait, par exemple, là-bas avec des graines, qui est naturel aussi. Dans le raisin, par exemple, lui aussi, c'est quelque chose de naturel. D'accord ? Donc tous ces exemples qu'on a vus, c'est des choses qui ressemblent à quelque chose de guidoulé karka. Dès que l'action que je fais, elle se fait dans quelque chose qui n'est pas du tout quelque chose de naturel et qui pousse du sol et qui est quelque chose de naturel, ça ne rentre pas dans la melacha. Pourquoi ? Parce que c'est très très différent. Dès que c'est très différent de l'acte de la melacha, ça ne rentre pas dans la melacha de Shabbat. Par contre, ça sera interdit par les chachamim. On verra ça, on définira lorsqu'on arrivera au cours de tout ce qui est essoré, pressé, tout ce qui est mouillé. D'accord ? On rentrera dans ces définitions, on rentrera plus en détail. Troisième point qu'il faut définir. Alors là, je vous dis, c'est un peu, là, il faut bien, un petit peu bien se concentrer pour bien comprendre ce point-là, mais c'est important, c'est facile. Si maintenant, j'avais dû, d'après ces définitions qu'on vient de voir et tout ce qu'on vient de développer. Alors, d'abord, je vais vous dire d'abord comment elle s'appelle cette Nekouda. Pour faire un interdit qui est de Dash, il faut que je fasse un interdit qui s'appelle que je suis en train de faire une Melacha. C'est-à-dire que je suis en train de faire un travail. Melacha, c'est aussi un travail. Si je suis en train de manger, d'accord, malgré que, d'après les actions que je suis en train de faire, ça répond à toutes les définitions, ça ne s'appelle pas que je fais un travail. Alors ça, c'est le titre, je vais vous expliquer. Si par exemple, je prends une pistache, d'accord, une pistache, comment, de quoi elle a l'air, la pistache? J'ai le fruit qui est à l'intérieur, et autour du fruit, la pistache par exemple, j'ai l'écorce. D'accord? Maintenant, d'après les définitions qu'on vient de voir, est-ce que j'ai le droit de manger cette pistache au jour du Shabbat? Si je vois toutes les définitions qu'on vient de voir depuis le début du cours. Qu'est-ce que vous pensez?
Pour manger, on a droit pour le Shabbat, non?
Justement, il faut comprendre pourquoi. L'action que je suis en train de faire, apparemment, elle répond à toutes les définitions de Melechet Dash. Venons voir ensemble. Le fruit, c'est la pistache, d'accord? L'écorce, c'est autour. La pistache, elle est incorporée dans l'écorce. Pour pouvoir arriver à la pistache et la manger, je suis obligé de casser l'écorce. Même encore mieux, la noix, par exemple. La noix, c'est encore mieux, on ne voit même pas la noix. Pour arriver à la noix, il faut casser l'écorce pour pouvoir faire sortir la noix. Et on est bien d'accord que l'écorce, elle est très différente du fruit qui est la noix. Donc tout, on a toute la définition ici. C'est différent. On casse et on extrait. Et c'est incorporé l'un dans l'autre. Comme le grain de blé en fait. Et pourtant, c'est sûr, c'est évident qu'on a le droit de casser une noix à Shabbat et de manger. La question est pourquoi. La troisième, c'est ça le Nekouda qu'on vient de voir. Lorsque je suis en une très grande différence de battre le blé, par exemple, et de casser une noix. Lorsque je casse la noix, l'action que je suis en train de faire, c'est vrai que je réponds à toutes les conditions de Dash. Je vais vous faire d'abord une introduction pour que vous compreniez. Si je dis que je suis en train de manger la noix, alors il faut comprendre. Si par exemple je fais une omelette, tout à l'heure on a parlé de l'omelette, est-ce que j'ai le droit de faire une omelette Shabbat? Non, on est d'accord qu'on n'a pas le droit de faire une omelette. Prendre une poêle et de mettre faire une omelette comme ça, à la hache. Pourtant, lorsque je veux manger une omelette, je cuis mon omelette avant. Donc, pourquoi on dirait pas, je veux manger une omelette, d'accord? Alors j'ai le droit de faire mon omelette parce que je mange une omelette. Parce que je veux manger mon omelette et je peux pas manger mon omelette sans cuire, donc j'ai le droit de cuire. Ça en dit pas, ça. D'accord? Donc si on ne dit pas ça, on devrait dire aussi pareil. Pourquoi, lorsque j'arrive à la pistache et je veux manger, puisque pour casser la pistache, je suis en train de répondre à toutes les conditions qui est pour la mélérette de Dash, donc je n'aurai pas le droit de manger ma pistache lors du Shabbat. Pourtant, manger une pistache, c'est moutard, et cuire une omelette, c'est interdit. Quelle est la différence? C'est clair la question? Vous voyez la question ou pas? On analyse pour comprendre. Si je réponds à toutes les conditions, c'est par exemple cuire, c'est prendre un œuf qui est cru et de le passer cru à l'état cuit. Ça, c'est la définition de bichou, de cuire. D'accord ? Personne ne va dire qu'on a le droit de cuire une omelette parce que je veux manger une omelette. Donc, pareil dans la pistache. Casser la pistache, ça répond à tous les tnaïm, toutes les conditions de Melechet Dash. Donc, pourquoi j'ai le droit de casser ma pistache pour manger ? Quelle différence entre les deux ? Alors, la question est un peu bizarre, bien sûr, mais vous allez voir d'après la réponse, ça, on va mieux comprendre la définition, encore une fois, de Melechet Dash. Lorsque, on va prendre par exemple, battre le blé. D'accord ? Pourquoi on bat le blé ? On bat le blé parce qu'on veut extraire le blé, d'accord, le grain lui-même, pour pouvoir après faire de la farine et faire du pain. Donc c'est une action qui ne rentre pas dans l'action de manger. C'est une action qui est une étape importante pour pouvoir après par la suite manger. Donc c'est une action, où est-ce qu'on l'a fait cette action? On l'a fait ça dans le champ. D'accord? Donc si cette action-là, on a besoin d'arriver à cette action, c'est-à-dire qu'il manque un corps dans, pour arriver à l'étape du fruit. Ça veut dire que le blé, personne, par exemple, personne vend des épis de blé qui sont fermés comme ça en commerce. Donc l'étape pour extraire le blé, c'est une étape qui n'a rien à voir avec l'étape de manger. C'est une étape qui est importante dans les étapes pour arriver à avoir du pain. Tandis que la pistache, d'accord, la pistache, les noix, on les vend avec les écorces. Ça veut dire que une fois qu'on les vend avec l'écorce, le fait que l'écorce est autour du fruit, c'est pas une étape qui va manquer au fruit. Lorsque je parle le fruit de la pistache, le fruit va avec l'écorce. Donc il ne manque rien ici, il n'y a pas une étape de travail. Ce qu'il va falloir après casser l'écorce, c'est une étape qui est technique pour manger. C'est pas une étape de travail. D'accord ? C'est pas une étape de travail, c'est pas une étape qui est importante, qui est une étape importante dans les étapes de fabrication du pain. C'est s'appelle que je mange. Comment on mange une pistache ? En cassant l'écorce. Tandis que cuire, par exemple, d'accord ? Lorsque je suis à l'étape où je cuis mon omelette, au moment où je cuis, je suis pas en train de manger. Je suis en train de cuire. C'est une étape qui est très différente de se mettre à table et de manger. C'est une étape qui est importante. C'est une étape rachouva meot. Donc, puisque c'est une étape qui est importante, ce n'est pas directement lié au fait de manger. Tandis que dans battre le blé, ça sera une étape seulement qui est utile dans la commercialisation des choses. Un exemple, je vous donne. Si par exemple, on a. Par exemple, on parlait des amandes. Les amandes, on les vend en général, ouais, on les vend épluchées. Il y a dans les fois dans le commerce des amandes qui sont faites autour de l'amande. Il y a une épluche verte. Il y a comme ça quelques saisons dans l'année, on peut les avoir. Donc cette amande, elle est entourée d'une écorce verte. D'accord ? Donc lorsque maintenant je vais casser cette en général, quand est-ce qu'on enlève cette épluche verte là, cette écorce verte là ? On fait ça dans les usines, ça arrive comme ça du champ, on casse et on met en pack des amandes qui sont épluchées et on vend des amandes épluchées. Donc, quelle différence par exemple entre la pistache et les amandes ? Pourquoi on commercialise les pistaches avec les écorces et on commercialise les amandes en général sans les écorces ? C'est comme ça qu'on fait. Donc ça c'est une métier, c'est une évidence. Mais puisque c'est comme ça, donc maintenant, ça va transformer. Si enlever l'écorce d'une amande, c'est quelque chose qui est industriel. Mais enlever l'écorce d'une pistache, c'est pas quelque chose qui est industriel. C'est quelque chose que tout le monde fait à la maison. Donc ça enlève toute l'importance d'enlever l'écorce. C'est pas un travail. C'est pas une étape qui s'appelle travail. Tandis que enlever l'écorce du blé, par exemple, on a dit au début, ça c'est une étape que on fait de manière industrielle. Donc c'est une étape importante. Donc c'est un acte important et ça rentre dans la mélacha. Pardon ?
La tétée, quand le bébé tète, ce n'est pas un travail alors ?
Alors, quand le bébé tète ou quand j'extrais ?
Non, quand le bébé tète directement.
Nahon, il y a fait merde. Très, très bonne remarque. D'après l'exemple qu'on m'a donné, ça c'est une très bonne, ça je voulais traiter en temps voulu, mais c'est exactement pour la même raison qu'un bébé peut allaiter. Parce que lorsqu'un bébé allait, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de manger. Donc ce n'est pas une étape qui est travail. L'action que je suis en train de faire, elle change complètement, puisque c'est une action de manger. D'accord? Donc pareil maintenant, lorsque j'ai ma pistache, lorsque je casse ma pistache et je mange, l'action que je suis en train de faire s'appelle que je mange ma pistache. Personne ne dit que tu es en train de travailler, tu es en train de faire des pistaches, à empaqueter des pistaches. Pas du tout. L'action que je suis en train de faire, c'est une action de manger. Par contre, si je prends maintenant des amandes, je parle des amandes précises que j'ai parlé tout à l'heure avec l'écorce verte autour, d'accord ? C'est vrai que il y en a qui achètent comme ça des amandes et qui les cassent, mais c'est pas l'habitude, c'est pas le derrière, c'est pas la manière de manger des amandes. Les amandes, on les achète déjà épluchées. Donc, puisque l'habitude c'est de manger des amandes épluchées, si quelqu'un prend une amande avec une écorce verte, ça c'est une étape industrielle qu'il est en train de faire. C'est pas une étape de manger. Donc là, ça pose problème. Là, on rentre dans la melacha de dash. D'accord ? Donc tout dépend de l'action que je suis en train de faire. Est-ce que c'est une action industrielle ou c'est une action de manger, une action simple de manger ? Si j'ai une pistache, une noix, puisque, je vais encore mieux expliquer ça, c'est une notion un peu fine, mais il ne manque rien. Ça veut dire que pour faire du pain, je suis obligé d'arriver à l'étape de battre le blé. On ne peut pas l'échapper. Tandis que la noix, lorsqu'elle arrive sur l'étalage chez le marchand avec la noix, personne n'a dit, mais comment ça se fait qu'on vend des noix avec des écorces? Depuis quand on vend des noix avec des écorces? J'ai jamais vu quelqu'un qui a posé cette question. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la noix, son apparence, elle est avec son écorce. Donc le fait d'enlever l'écorce de la noix, c'est pas une étape importante, c'est pas du tout une étape industrielle et c'est pas une étape dans la fabrication des choses comme le blé. Alors qu'est-ce qui va faire la différence maintenant? Si on vend, écoutez bien, si on vend comme ça, avec l'écorce, ou si on a l'habitude de vendre sans l'écorce, on voit en fait la majorité des choses, comment ça marche. Est-ce qu'on vend ça avec l'écorce, ou de manière industrielle, de manière commerciale, avec son écorce ou sans son écorce? Si on vend ça avec l'écorce, donc le fait d'enlever l'écorce, même si ça répond à toutes les conditions de Melechet Dash, mais lorsque je vais enlever l'écorce avant de manger, ça ne rentre pas du tout dans la Melechet Dash, ça enlève toute l'importance de l'action. Tandis que si on vend ça de manière épluchée, d'accord, sans l'écorce, donc le fait maintenant d'enlever cette écorce, c'est une étape qui ne se fait pas en général dans les maisons. Même si quelqu'un décide de le faire et même si quelqu'un a l'habitude de faire. Mais en général, si je vois la majorité du monde, c'est pas une étape qui s'appelle manger, c'est une étape qui se fait de manière industrielle. On fait ça dans les usines. Le blé, on fait ça dans le champ, mais les choses, les écorces souvent, qu'on n'a pas l'habitude de vendre avec, on les fait dans les usines. Donc cette étape, elle devient importante. Donc si cette étape, elle devient importante, ça rentre dans la melacha de Dash. D'accord? Est-ce que c'est clair? C'est un peu compliqué, cette question. Alors, je vais juste clôturer le sujet qu'on va voir pour terminer. Si maintenant, donc l'exemple, un des exemples, par exemple, qu'on donne, il y a un exemple qui est un peu en marloquette, c'est qu'il y a plusieurs... on va pas entrer là-dedans, c'est par exemple les cacahuètes qui sont avec leurs écorces. Alors ça dépend. Comment on vend des cacahuètes? Est-ce que les cacahuètes, on les vend avec des écorces ou on les vend sans les écorces? En général. Hein? Non, je parle des écorces, je parle des écorces marron, là. C'est les deux cacahuètes qui viennent ensemble. Quelle est la majorité? Donc ça c'est un sujet un peu à c'est ça, donc il faut voir par exemple qu'est-ce qui se vend pas ou se vend. Mais l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, par exemple les amandes fraîches comme ça avec l'écorce verte, d'accord, alors là hein, regardez la différence. Si j'ai par exemple, là je vais un peu plus accentuer la différence entre les deux, c'est un peu compliqué mais on sait pas, on termine avec ça pour clôturer le sujet. Si par exemple j'ai trois pistaches, d'accord, je décide de les manger les trois. Donc j'ouvre les trois maintenant, j'ouvre les trois pistaches et je veux les manger. D'après ce qu'on vient de dire, enlever l'écorce d'une pistache, ça s'appelle manger. Ça s'appelle pas melechet dash. Parce que tout le monde achète avec les écorces comme on a expliqué tout à l'heure. Mais si par exemple j'ai trois amandes fraîches, et ces trois amandes-là, elles sont avec leurs écorces vertes. D'accord? Si je les coupe, si je les casse les trois ensemble et je les mange, au moment où je casse mes écorces vertes, puisque c'est une étape qui n'est pas habituelle, donc ça rentre dans l'étape industrielle et ça s'appelle que je suis en train de faire une melacha et j'ai pas le droit. C'est melachet dash. Par contre, et là c'est intéressant, si je prends une à une, c'est-à-dire je prends une amande fraîche, je la casse et je la mange. Après, je prends une autre très belle amande fraîche, je la casse et je la mange. Là, ça sera permis. Pourquoi ?
Parce que c'est directement du producteur au consommateur, pour résumer.
Alors,
on consomme tout de suite.
Ouais, on consomme tout de suite. C'est-à-dire que je veux plus accentuer.
Il n'y a pas de travail.
Voilà. C'est-à-dire, voilà, très bien, il n'y a pas de travail, c'est ça. C'est-à-dire, si quelqu'un venait, on imagine, là, on va dire, dans le, où toutes les amandes, ils arrivent comme ça avec leurs écorces vertes à l'usine, et on voit un ouvrier qui casse une, comme ça, une à une, il commence à casser les amandes. Si le patron veut dire, t'es pas en train de travailler, là, c'est pas comme ça qu'on casse. D'accord? Comment on casse? Comment on bat le blé? Comment on enlève les écorces? Plusieurs ensemble. Donc, si je casse et je mange, là c'est très extrême, et l'action que je fais, ça prouve clairement que je veux manger. Donc cette action-là, même si ça se vend sans les écorces, c'est une étape industrielle, mais puisque l'action que je suis en train de faire, elle est très bizarre, elle est très... et ça se voit de manière claire que je suis en train de manger, ça s'appelle manger, et ça devient moutard. Donc je résume, pour qu'on sorte avec quelque chose de clair. C'est que... mais c'est important... parce que, par exemple, on m'a demandé tout à l'heure allaiter l'enfant, ça rentre dans ce domaine. Malgré que allaiter, malgré que traire, d'accord, ça rentre dans la définition de dash. Mais allaiter, vous voyez, là c'est deep, c'est rien à voir. Allaiter, je rentre dans un autre sujet. Malgré que toutes les conditions sont réunies, c'est ça qui est intéressant. Mais ça change complètement de statut. Et donc ça s'appelle que je suis en train de manger, je suis pas en train de faire un travail. Donc la seule différence qu'il y aurait, par exemple, si maintenant je parle de noix et de pistaches et toutes choses pour moi avec les écorces, ça, il n'y a pas de problème de, même plusieurs ensemble, de casser, malgré que je suis en train de tout, ces deux choses incorporées, différentes, et que je casse, mais l'action que je suis en train de faire, elle perd de toute sa valeur, parce que ça prouve que je suis en train de manger. Par contre, si j'ai quelque chose, un peu difficile à trouver, mais je parle de manière théorique plus, si j'ai quelque chose que on vend que sans l'écorce. Donc où c'est qu'on enlève ces écorces? Pas chez soi à la maison, dans l'industriel. Donc là, si je fais plusieurs ensemble, je suis en train de me rapprocher de la melacha. D'accord? Je suis en train de faire exactement ce que l'ouvrier fait à l'industriel. D'accord? Tandis que les pistaches et les noix, il n'y a pas d'étape comme ça, de manière industrielle, d'enlever les écorces. Donc cette action, elle saute. Ça s'appelle « je suis en train de manger ». Donc toute la vie, par contre, si je prends une à une, alors là, même les choses qui sont... qui ne se vend pas avec les écorces, et que j'essaie de casser un et de le manger, c'est prouver clairement que je suis en train de manger et pas en train de faire une melacha. Donc toute la différence qu'il y aura entre les deux types de fruits avec les écorces, ça sera plusieurs ensemble ou pas plusieurs ensemble. Seulement juste une écouda qu'il faut juste préciser, que si par exemple les pistaches, les noix et le reste des choses qu'on a le droit de casser et de manger, il faut ce que j'ai cassé, manger dans la demi-heure que j'ai cassé. Pas après, c'est-à-dire si jamais je casse, on va dire, Shabbat matin, je casse plusieurs noix, je mets ça dans un plateau, pour pouvoir après, Nagid, je prépare la soda shlichit, de manger la soda shlichit. Ça, j'ai pas le droit. Vous comprenez pourquoi? Ça, vous pouvez pas savoir pourquoi, c'est la melacha d'après. Ça veut dire que, ça, on va étudier, pourquoi je peux pas vous expliquer maintenant. Mais en tout cas, c'est pas la melacha de dash. Casser une noix, casser des écorces, des fruits qui se vendent avec leurs écorces, c'est pas du tout une étape qui est melacha dash. Par contre, il va falloir manger ça samour. Comment on dit samour? Samour, juxtaposé. Au moment où je casse. Voilà, tout de suite. Pas tout de suite, dans la demi-heure, on va dire. Pourquoi? Ça, je ne peux pas vous expliquer maintenant, il faut tout un cours pour expliquer ça. Ça sera la melacha d'après de Borer. Pourquoi il faut manger ça tout de suite? Mais en tout cas, on n'était pas en train de traiter de manger tout de suite ou manger plus tard. On est en train de traiter l'acte que je suis en train de faire. L'acte de casser l'écorce d'une noix, d'une pistache, apparemment, ça répond à toutes les définitions qu'on a vues depuis le début du cours. Réponse, non. Réponse, cet acte, étant donné que le fruit, il est tout à fait complet avec son écorce, donc ça perd toute la valeur. L'action d'enlever l'écorce, elle perd toute sa valeur. Et donc, si elle perd toute sa valeur, ça n'a plus rien à voir avec, par exemple, battre le blé, qu'on ne peut pas faire de la farine et du pain si on ne passe pas cette étape, rachouba, mehot, de battre le blé. Personne ne bat le blé chez lui à la maison. Donc vous voyez la différence entre battre le blé et casser un fruit de son écorce qu'on veut manger dans la demi-heure qui suit. J'espère que la fin du shiur est claire, parce que c'était un peu fin, mais c'est important. Donc j'espère que c'est clair. Donc tout ça, c'est les trois. Donc, on résume, on va terminer le cours avec la définition. Et deux sortes différentes, incorporées l'une dans l'autre, qu'on veut extraire l'un de l'autre, avec une action de force. Tout ce qui rentre dans cette définition, d'accord ? Donc ce sont deux sortes différentes, qui est Guidoulé Karka aussi, comme on l'a dit, qui est de manière naturelle, et qui répond à une action importante, industrielle, et pas qui répond pas à l'action que je suis en train de manger. D'accord ? Comme on a vu à la fin du cours, tout ce qui rentre dans cette définition répond à la Melacha de Dash. Voilà. Donc on est encore au début du cours, on va, et tous les cours qui vont venir après, on va continuer et développer cette Melacha. Voilà. Donc Shavua Tov.
Merci beaucoup.
Bon tout, bonne semaine.
À la semaine prochaine.
Shavua Tov.
À bientôt.
À bientôt. Au revoir.